Voilà, ça c'est l'histoire. Hein, maintenant,
intéressant.
Parce que ce que tu proposes comme perspective là-dessus, c'est effectivement que c'est aussi une critique, là pour le coup, du colonialisme.
Voilà, c'est une chose dont on ne parle pas souvent dans les analyses, mais la première chose évidente, c'est qu'il est question du colonialisme. C'est une colonie, hein, une colonie française.
Parce que les indigènes en question ne parlent même pas français.
Ils ne parlent même pas français. Hein. Ils sont soumis, disons, à une domination. Alors, je trouve que c'est très fin, l'histoire, parce qu'elle montre trois formes du colonialisme. C'est très ironique. Bon, il y a le vieux colonialisme féroce, brutal, de l'ancien commandant, qui parlait au nom de Dieu, etc., et qui a inventé cette machine monstrueuse, n'est-ce pas? Bon. Donc, voilà. Et l'officier qui dirige l'exécution est un partisan de l'ancien commandant, disons, du système, disons, de domination le plus brutal, le plus violent, soi-disant au nom de Dieu, etc. Bon. Maintenant, il y a le nouveau commandant qui, lui, est beaucoup plus moderne, plus modéré. Il n'aime pas tellement cette machine, mais bon. Il laisse quand même continuer les exécutions. Elles ne sont pas en public avant, à l'époque de l'ancien commandant, c'était en public, c'était toute une fête, une cérémonie, etc. Maintenant, on les fait plus discrètement. Et, détail qui est vraiment très piquant, les dames de la bonne société de la colonie, elles ont pitié des condamnés. Et quand ils vont être exécutés, elle leur donne des bonbons. N'est-ce pas? Elle leur donne des bonbons. Alors ça, c'est vraiment l'image du colonialisme gentil, n'est-ce pas? Le colonialisme gentil, c'est-à-dire on tue le personnel, mais on lui donne des bonbons avant, n'est-ce pas? On
charitable.
A pitié, hein? Charitable, voilà. Et puis, bon, donc ça, c'est les deux versions. Et la troisième variante du colonialisme, c'est les voyageurs qui est là. Qui, lui, n'aime pas du tout cette exécution. Il trouve ça assez barbare. Mais, bon, il hésite beaucoup s'il doit protester ou pas, de quoi je me mêle, est-ce que je proteste. Et l'officier lui demande son soutien. Il dit, vous devez me soutenir. Cette machine est merveilleuse. Ce système est formidable, etc. Vous devez me soutenir. Vous devez dire au nouveau commandant qu'il faut rétablir le cérémonial, etc. Et les voyageurs disent, non, je suis pas vraiment d'accord avec vous. Je vais dire au commandant que je pense pas que c'est une bonne chose, mais je vais dire que c'est mon opinion personnelle, hein, c'est pas, etc. Donc.
Une protestation voilà, très frileuse, quand même.
Voilà, une protestation très frileuse, très hésitante. Est-ce que je vais vraiment donner une opinion négative? Il hésite finalement, il dit bon, peut-être je vais dire non. Je vais dire que je trouve pas ça très bien, etc. Bon, voilà. Ça arrive jusqu'à là. Disons, ça c'est vraiment le colonialisme le plus éclairé, hein. Qui pense qu'effectivement, c'est peut-être pas une très bonne chose, cette machine. Et à la fin, on voit ce voyageur quitter l'île, il y en a marre, il va prendre un bateau. Et alors, le condamné, finalement, n'est pas exécuté. Bon, il y a un problème avec la machine, etc. C'est l'officier qui se met à l'intérieur de la machine qui va être tué. Hein. Et le condamné, donc, échappe, et les soldats qui le surveillaient, qui étaient un indigène aussi, s'échappent aussi, les deux s'échappent, et ils veulent quitter l'île. Et quand le voyageur prend le bateau pour revenir à la métropole, probablement, les deux indigènes veulent aussi prendre le bateau pour partir, et lui les pousse, les empêche de monter sur le bateau. Bon, ça c'est le colonialiste éclairé, n'est-ce pas, qui dit les indigènes à leur place, dans leur pays.
T'as le droit de vivre, mais tu restes sur l'autre côté de la rive quand même.
C'est
hein.
Ça, voilà. Donc je trouve que c'est vraiment très fort comme analyse du colonialisme, et il y a très peu à la littérature de l'époque, en 1914, hein, il y a très peu de textes qui analysent le colonialisme, qui dénoncent le colonialisme. Donc je trouve que c'est très très fort, hein, cet aspect. Hein, ce premier aspect, ça épuise pas l'histoire.
Hein. L'histoire.
Elle est très riche, mais c'est un premier niveau, une critique du colonialisme.
Et puis, toujours avec ce que tu évoquais là, c'est-à-dire cet humour noir en fait, ce caractère ironique quand tu parlais des situations piquantes qui étaient décrites.
Ouais.
L'ironie aussi, c'est quelque chose qui est assez fort chez Kafka
oui.
Et qui fait d'ailleurs que l'interprétation qu'on peut en avoir est toujours un peu, si elle est trop littérale ou trop, si elle prend trop au pied de la lettre, finalement cette image d'une condition humaine écrasée, ouais, ne repère pas forcément. C'est vrai que Kafka ironique, c'est pas toujours la façon dont on nous représente. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est pas comme ça en général qu'on présente Kafka.
Ouais.
On le présente en général pas comme ironique.
Ouais. Et pourtant, c'est fondamental. Et c'est, cette dimension ironique, elle est présente dans toute son œuvre. Et celui qui a bien compris ça, c'est justement André Breton. Mm-hmm. Parce qu'il cite Kafka dans l'anthologie de l'humour noir. Il y a un chapitre sur Kafka. Oui, et justement parce qu'il y a cet humour noir chez Kafka.
Qui pour lui est un exemple fort. Mais dans finalement, quand tu nous, je trouve très beau ta façon de nous raconter ces deux romans et l'allégorie qu'elle porte en elle, la puissance de cette allégorie, que ce soit dans le procès, mais aussi dans la colonie pénitentiaire, on peut quand même questionner cette machine finalement, qui s'inscrit dans les corps.
Oui.
C'est quand même intéressant de voir à quel point la loi, on pourrait aller un peu plus loin, s'incorpore à la limite de manière carrément sur le corps, physiquement.
Ouais,
quoi.
Ouais, ouais.
Et puis on voit qu'en même temps, la machine ne fonctionne pas. Enfin, il y a des dysfonctionnements quand même de cette machine implacable. Ouais. Peut-être ça, c'est une forme de l'ironie par rapport au procès où finalement, on est face à une machine implacable. Il y a un côté... Là, finalement, dans la colonie pénitentiaire, même cette machine, cet instrument, même du colonialisme, le premier colonialisme que tu décrivais comme la machine, on pense tout de suite au colonialisme même espagnol avec cette idée de convertir les sujets, etc. Cette machine finalement n'arrive pas à fonctionner de manière totale. Elle n'arrive pas à être totale quand même. Donc là, il y a quand même une critique de cette machine bureaucratique finalement.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que la machine, là, qu'est-ce que Kafka veut dire avec cette histoire de la machine? Je pense qu'il veut dire que les appareils de domination, ça fonctionne d'une façon complètement aliénée, complètement chosifiée, réifiée. C'est comme, disons, l'appareil bureaucratique, c'est comme un appareil. Hein, ça fonctionne tout seul, automatique. Hein, et dans la nouvelle, Kafka insiste, c'est une machine automatique. On n'a pas besoin de tourner une manivelle. Hein, ça marche tout seul. Hein, elle est automatique. Hein. Bon, donc il y a cette idée. Donc, l'appareil d'oppression, c'est quelque chose qui marche tout seul, automatique, impersonnel. Et c'est une machine à tuer. Alors, à quelle machine bureaucratique a tué, pensait Kafka à ce moment-là? Et j'insiste sur le fait que ça a été écrit 3 mois après les débuts de la Première Guerre mondiale. Guerre mondiale envers laquelle Kafka avait une distance critique. Hein. Il partageait pas du tout l'enthousiasme patriotique. Il trouvait détestable le défilé patriotique et tout cet enthousiasme guerrier. Et autre chose... Il avait compris que cette guerre était une guerre moderne qui se faisait avec des machines. Il y a un texte de lui où il dit, bon, il y a beaucoup de gens qui reviennent du front malade, disons, du point de vue des nerfs, à cause que c'est une guerre mécanique. Hein, une guerre mécanique. Bon. Donc, il y a cette idée, la guerre, guerre de machines, guerre mécanique, mais la guerre elle-même lui apparaît comme un engrenage. Une fois qu'on l'a mis en marche, il marche tout seul, hein, personne ne le contrôle plus, et il broie de l'humain, hein, il broie tout le monde, les soldats, et même les officiers finissent par être broyés dans la machine. Donc, pour moi, la machine, c'est une allégorie des appareils bureaucratiques, destructeurs, mais surtout de l'appareil bureaucratique militaire, hein, tel qu'il se manifeste dans la Première Guerre mondiale, en tant que machine à tuer. Hein, machine dont le but spécifique, c'est de tuer, bon, au nom de la patrie, de la loi, de Dieu, etc. Bon. Et dont, finalement, même les ceux qui servent la machine, les officiers, etc., finissent par être broyés eux-mêmes. Hein. Bon, et, mais machine qui parfois se détraque. Hein. C'est le seul espoir, c'est que parfois elle se détraque.
Mmh. Donc effectivement, c'est assez éclairant, finalement, puisque tu sens ta critique quand même, on peut dire, de Kafka, sur vraiment une critique de la bureaucratie. Mmh. Et on n'a jamais, même ça, on n'a pas l'habitude de l'entendre, alors qu'effectivement, quand on a l'intrigue près de nous pour comprendre ces deux histoires, on comprend que c'est central, par exemple, dans ces deux œuvres. Ça me fait, moi, associer, pour les auditeurs qui avaient entendu la rentrée de Zone Attraction, on avait consacré deux émissions à Georges Lapassane et aussi à l'analyse institutionnelle, tu te souviens, Valentin, je pense. Ouais. Et effectivement, comme mouvement auquel Georges Lapassane a participé, et l'analyse institutionnelle, justement, comme critique des institutions, critique de la bureaucratie, ouais. Où effectivement, on a un Georges Lapassane qui, dans l'université, va même parfois accompagner les étudiants qui n'arrivent même pas à s'inscrire, en disant mais où ça bloque, c'est-à-dire où ça dysfonctionne pour que ça ne fonctionne pas. Donc ils prenaient les étudiants un par un pour visiter l'institution finalement et les accompagner dans l'institution pour essayer de voir mais alors pourquoi ça marche pas, pourquoi, à quel moment il y a un blocage qui fait que tout dysfonctionne finalement.
Oui, et puis Lapassane se définissait volontiers comme un arpenteur. D'ailleurs, c'est le titre d'un de ses livres en référence directe au château de Kafka. Et donc la figure de Kafka et de l'arpenteur de Kafka était vraiment fondamentale pour lui. Je pense qu'on peut peut-être se faire une autre pause musicale.
Alors, on avait du malheur. Je crois que tu avais envie d'entendre ça. Donc, on va entendre tous ensemble un peu de malheur.
Ein Saal in einem tiefen Tal, Kuckuck und Nachtigall, täten ein Wettern schlagen, zu singen das Meisterstück. Gewinn ist Kunst, Gewinn ist Glück, Dank soll davon tragen. Kuckuck sprach so, dir's gefällt, hab ich den Richter wählt und tät gleich den Esel ernennen. Denn weil zwei Ohren groß, Ohren groß, Ohren groß, so kann hören desto groß und was recht ist kennen. Sie flogen vor den Richter bald, wie dem die Sache war, da zehn schuf sie sollten singen. Die Nachtigall sang lieblich aus. Der Esel sprach, du machst mir's kraus, du machst mir's kraus. Ich kann's im Kopf nicht bringen. Der Kuckuck drauf fing an, geschwind sein Sang durch Terz und Quart und Quint. Dem Esel quiet, er sprach nur, wart, 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 dein Urteil will ich sprechen, ja sprechen. Wohl sungen hast du Nachtigall, aber Kuckuck singst gut Choral, gut Choral und hältst den Takt fein innen, das spreche ich nach mein hohen Verstand, hohen Verstand, hohen Verstand und kost ist gleich ein ganzes Land, so lass ich dich gewinnen, gewinnen. Kuckuck, Kuckuck,
On reprend l'antenne, il y a une discussion qui a eu lieu hors antenne, donc on a même un peu le hors-texte, je ne sais pas s'il y a un peu de...
Il y a toujours du hors-texte. Hein.
Si un peu de discussion a pu arriver jusqu'à vos oreilles.
Donc ce n'était pas du malheur, mais du malheur.
Malheur.
Donc M-A-L-H-E-R.
Hein, on s'afflige pas du malheur en fait sur Radio Libertaire quand même.
Hein. On n'est pas là pour rigoler quand même. On voulait peut-être
évoquer pour continuer sur cette question de la bureaucratisation croissante du monde, donc dénoncée par Kafka. Il y a la figure de l'arpenteur. On parlait de Georges Lapassade qui a été lui-même en fait qui s'est toujours revendiqué un arpenteur des institutions et aussi des sciences sociales. Le château. Alors quel oui. Comment regarder cet ouvrage qui aussi est
un autre ouvrage
fondamental,
hein, de Kafka.
Qui aussi est fondamental.
Oui, alors donc le château, c'est aussi cette aventure de l'individu face à l'appareil bureaucratique. Là, c'est pas l'appareil judiciaire comme dans le procès, mais c'est directement l'appareil bureaucratique. Alors encore une fois, le personnage qui soi-disant qui a les pouvoirs dans cette cité, le duc ou je me rappelle plus le prince, et ça l'intéresse pas du tout. Hein. Il est complètement effacé. Il s'appelle le comte Vest-Vest. Bon, il n'existe pratiquement pas dans l'histoire. Donc c'est pas ça qui l'intéresse. C'est pas le pouvoir d'un individu. C'est l'appareil, la bureaucratie, qu'il montre comme un appareil complètement opaque qui disons, fondé sur une espèce de absurde bureaucratique qui passe son temps à contrôler ses erreurs mais qui affirme qu'il n'a jamais commis des erreurs, etc. Bon, donc c'est vraiment, on est en plein dans l'absurde bureaucratique et l'individu qui, l'arpenteur qui veut simplement qu'on reconnaisse qu'on l'a convoqué là pour servir, pour travailler comme arpenteur, mais on lui dit oui, non, on verra, etc. Bon, voilà, donc c'est cette histoire, c'est la bataille de l'individu avec cet appareil bureaucratique, irrationnel, opaque. Bon, ça c'est le premier aspect, et l'individu qui arrive du dehors, hein, c'est l'étranger, donc bon. Mais je pense qu'il y a un sous-texte qui est aussi important que celui-là de l'individu face à l'appareil, face à l'appareil du château, bon, insaisissable. Il n'arrive jamais à voir vraiment le château, à entrer. Bon, il y a tellement de barrières. Bon, ça, c'est aussi le système de la bureaucratie. Tellement de barrières et barrières derrière les barrières. Bon, on ne peut jamais arriver. Hein, bon. On reste au niveau inférieur, aux échelons inférieurs. Bon, on ne peut jamais arriver. Bon. Alors, il y a des histoires d'amour aussi, un aspect érotique, bon, très intéressant. Mais il y a une sous-histoire, disons, une histoire dans l'histoire qui, je trouve, aussi très importante, parce que c'est à la fois l'histoire de la soumission volontaire, à nouveau le thème de la soumission volontaire, et l'histoire de la révolte de l'individu. Et dans ce cas, c'est une femme, l'individu. Bon, alors, c'est l'épisode d'une femme qui s'appelle Amalia, qui est sollicité par un bureaucrate, un fonctionnaire du château, mais d'une façon extrêmement grossière et obscène. Elle lui envoie un mot en disant « Je veux te sauter, tu es convoqué à l'auberge du château de 3h à 4h, je n'ai pas de temps à perdre, ni avant ni après, et voilà, c'est tout. Hein. » Bon. Et il y a un émissaire qui apporte le message, et Amalia, cette femme, elle lit le message, elle les déchire, elle les jette au visage du messager. C'est tout. Hein? Mais ça suffit pour que le château la déclare une paria, c'est-à-dire elle est, disons, mise
au banc.
Hein? Personne ne lui parle plus, ni à son père, ni à sa mère, ni à personne de sa famille. Toute la famille est mise au banc, ostracisée par les autres gens. Donc voilà la servitude volontaire. C'est-à-dire tout le monde accepte
l'instituer
cette décision du château qui n'est même pas une décision légale, c'est simplement implicite. Bon, tout le monde se soumet, ils sont ostracisés et traités comme des parias, et reste cette femme qui ne plie pas, cette femme qui a eu le courage simplement de dire non, ça suffit. Hein? Donc il y a l'arpenteur qui résiste à sa façon. Et il y a cette femme, Amalia, hein, qui a fait ce geste, hein, le geste fort de la résistance. Bon. Et je trouve que cette figure de femme qui résiste, elle est très importante dans le roman, Le Château. Et elle est importante pour Kafka, parce que, et ça c'est un peu la biographie de Kafka, on trouve à différents moments dans sa vie, dans son journal, etc., il admire les figures de femmes qui ont le courage de dire non, qui résistent à l'autorité. Ça apparaît plusieurs reprises dans différents contextes. Et je pense que ça a à voir avec sa sœur, qui s'appelait Otla, sa sœur préférée, qui, contrairement à lui, Franz, avait le courage de dire non au père. C'est-à-dire, Franz, il se débattait avec le père, il n'arrivait pas à dire non. Et elle, par contre, elle envoyait le père balader. Elle était pour Kafka l'exemple, ce qu'il fallait faire, mais qu'il n'arrivait pas à faire lui. Donc, cette admiration pour la femme qui dit non à l'autorité, je pense que c'est un aspect important de la vie et de l'œuvre de Kafka. Et dans le château, ces personnages de Amal, c'est presque un des rares personnage positif, entre guillemets, parce que Kafka, d'habitude, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est pas l'héros positif. C'est plutôt voir dans la réalité, les gens sont soumis, broyés, etc. Bon, comme dans le procès. Mais là, il a eu envie de montrer quand même l'exception. Bon, la femme qui.
Et l'exception, c'est quand même une femme qui résiste, quoi.
Voilà, c'est ça. Je trouve
ça
que
va
c'est
pas pour nous déplaire, ça, effectivement. Ouais.
Donc il y a chez Kafka comme ça des figures de résistance, il y a chez Kafka une ironie, on voit quand même, on évoquait la colonie pénitentiaire tout à l'heure, que parfois la machine se dérègle, donc il y a une force comme ça de cet humour noir, de cette ironie et de la mise en avant quand même de ces figures résistantes qu'une certaine critique a tendance à rendre sans doute plus discrètes qu'elles ne sont en réalité. Or, Antenne, on évoquait, avec Charlotte évoquait avec toi, cette question du romantisme anticapitaliste, quelque part. Il peut y avoir une critique, disons, romantique aussi, de la bureaucratisation du monde. Hein. C'est finalement cette façon de réifier toujours les rapports sociaux, d'empêcher la subjectivité de s'instituer, etc. Et le romantisme, ça a été aussi une partie d'un autre ouvrage. Hein. Tu as écrit un livre qui s'appelle « Révolte et mélancolie ». Est-ce que tu fais un rapport entre ces deux, entre ces deux figures, Kafka et le romantisme révolutionnaire ou non, et quel rapport?
D'accord. Bon, effectivement, j'essaie de montrer dans mon livre sur Kafka que, disons, un des ingrédients, disons, de cette culture insoumise de Kafka, c'est une forme de romantisme. Hein. Il y a une dimension romantique. Bon, alors, qu'est-ce que j'entends par romantisme? Pour moi, le romantisme, c'est une critique de la civilisation moderne, bon, capitaliste, bourgeoise, peu importe comment on l'appelle, en se référant à certaines valeurs du passé, hein, idéalisées. Hein, bon, un passé réel ou imaginaire, bon, peu importe. Bon, donc il y a un élément de nostalgie, hein, de sentiment que quelque chose a été perdu. Hein. Et on trouve ça aussi chez Kafka, c'est-à-dire on les trouve dans la façon qu'il a de regarder la société moderne, la technique moderne, les institutions de l'État. Bon, il y a cette distance critique envers la modernité et il y a une vision positive de communautés populaires, disons. Des paysans tchèques, par exemple. Il admire beaucoup les paysans tchèques, des gens humbles qui travaillent la terre, ou les communautés, disons, de juives de qui viennent de l'Est, bon, ces communautés traditionnelles, bon, qu'ils voient aussi dans une troupe de théâtre, qui forment une espèce de communauté, bon, des gens qui partagent cette langue. Bon, donc, il y a ces figures qui viennent du passé qu'il admire. Hein. Bon, mais cela dit, il n'est pas passéiste. Hein. Bon, il a cette attirance pour le passé, mais c'est pas du tout une attitude passéiste.
Oui, parce que justement, dans la question du romantisme, on avait invité d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Olivier Schaeffer, qui nous a parlé aussi beaucoup du romantisme. Je pense que, enfin, pour ma part, en tous les cas, un point important, justement, c'est de rompre avec cette dimension nostalgique. Quand tu dis, effectivement, de revenir à des valeurs valeurs du passé qui seraient effectivement perdues et dans lesquelles qu'on devrait retrouver finalement. Ça dépend de quel romantisme. Moi, quelque chose qui m'avait assez intéressé dans le romantisme d'Iéna, c'était vraiment le premier romantisme juste après la Révolution française, autour de 1795-1800, comme ça. C'était justement leur méthode régressive progressive. C'est-à-dire l'idée de revenir sur des choses du passé, mais non pas comme aujourd'hui, tout le monde nous assaille de cette idée. Il n'y a plus d'idées aujourd'hui, il n'y a plus d'innovation. Donc ce que nous devrions faire dans les sciences sociales, dans philosophie, ça serait revisiter les anciens auteurs, ceux qui ont fait école, ceux qui nous ont dit quelque chose qui me semble une erreur totale. C'est-à-dire le fait de revoir, mais de manière effectivement, justement, dans... Mais dans cette méthode régressive progressive que reprendra par exemple quelqu'un comme Henri Lefebvre, c'est cette idée, au contraire, je trouve, enfin Lefebvre ne développe pas ça, moi je le dirais comme ça, je le traduirais comme ça, c'est cette question de l'actualisation, c'est-à-dire non pas prendre des œuvres du passé pour retrouver la vérité que l'on aurait oubliée et qui s'y cacherait, mais au contraire pour les trahir. C'est-à-dire les prendre comme manière et les déporter dans un ailleurs. Et finalement permettre une connexion, oui, d'hétérogène, mais indispensable à l'avènement de nouveaux possibles, en fait.
Comme disait Benjamin, tout à l'heure tu parlais de Walter Benjamin, par exemple. Autre figure romantique, par exemple.
Tout à fait. Non, je pense que c'est ça, c'est ce que tu appelles la méthode régressive-progressive. Je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire... Disons, dans le romantisme, je vois fondamentalement deux grands courants. Bon, il y a un romantisme qui est régressif, qui est passéiste, qui veut revenir au passé, qui rêve d'un retour au passé, mais qui est désespéré parce qu'il se rend compte que ce n'est pas possible. Mais enfin, il y a cette contradiction. Mais il voudrait revenir au passé. Bon. Même dans Iéna, on trouve un peu ça chez quelqu'un comme Novalis. Novalis, dans l'Europe ou la chrétienté, il idéalise le Moyen-Âge. Il voudrait revenir à cette Europe du Moyen-Âge avec ses magnifiques cathédrales gothiques, etc. Bon, il se rend compte qu'il est impossible, mais bon, il n'arrive pas à s'en sortir. Bon.
Maintenant, disons que peut-être que chez les romantiques d'Iéna aussi, c'est toute la conception de la critique qui les sauve. Il y a quand même cette idée de l'actualisation des œuvres, c'est-à-dire on n'a jamais fini de commenter, donc il y a quand même une tension vers l'avenir. Même, je pense que c'est justement la différence avec Goethe et Schiller, peut-être, où justement, alors que les Grecs, ils avaient une foi en grec comme le modèle absolu, chez Goethe et Schiller, c'est très fort. Je trouve que déjà chez le romantisme d'Iéna, justement, donc la génération juste après, c'est plus dans les Grecs qu'on va trouver, mais c'est dans notre propre subjectivité qu'on va trouver les conditions justement d'un dépassement possible et d'un redéploiement. Je pense qu'il y a déjà un petit passage.
Enfin, pour revenir à ce que j'essaie de dire, il y a un romantisme passéiste, régressif, et il y a un romantisme révolutionnaire. Alors, c'est quoi le romantisme révolutionnaire? C'est des gens qui ne veulent pas un retour au passé, mais un détour par le passé vers l'avenir. C'est ça les progressifs régressifs. C'est-à-dire, on se réfère à quelque chose du passé qui a été effacé, détruit par la modernité capitaliste, disons, pour aller vite, mais pas pour revenir à ce passé, parce que c'est à la fois indésirable et impossible, mais pour s'en inspirer, pour penser quelque chose de nouveau, de l'avenir, de l'utopie. Donc, dans une perspective révolutionnaire, utopique. Bon, voilà ce que j'appelle romantisme révolutionnaire, et on les trouve chez beaucoup de penseurs depuis, disons Schlegel, Schlegel, le jeune Schlegel qui était républicain. Bon, il s'est référé à la mythologie, il s'est référé au passé, mais finalement pour penser une république universelle à l'avenir, n'est-ce pas? Bon. Et comme ça, William Blake, comme ça, William Morris, l'anarchiste Gustav Landau, c'est un bel exemple aussi. Gustav Landau était fasciné par la civilisation gothique. Il a des pages et des pages pour célébrer les cathédrales, le monde gothique qui était unifié, qui avait de la spiritualité, etc., où il y avait les petites communautés, bon, très idéalisées. Hein. Mais tout ça pour dire, pas qu'on peut revenir à la période gothique, mais pour dire, bon, voilà, l'utopie anarchiste de l'avenir, bon, doit s'inspirer de ces éléments pour créer quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui n'a jamais existé.
Voilà. Finalement, c'est aussi transfiguré littérairement, quelque part, parce que oui. Depuis tout à l'heure, effectivement, on parle de Kafka. C'est vrai que chez Kafka, on peut dire vraiment que, moi, j'ai l'impression que l'écriture et littérature, c'est vraiment une façon de se battre avec une autre oui. écriture qui est celle de la loi, quelque part. C'est comment se battre avec ça et comment essayer de dérégler, en fait, cette machine-là. Oui. Et effectivement, chez les romantiques, quand je vous entends, finalement, je me dis qu'il y a aussi cette conception de la comment se saisir aussi du passé comme effectivement une métaphore, comment aussi le détourner aussi par l'écriture, comment pour effectivement nourrir des projections utopiques. Et c'est vrai que les utopies, quand tu parles par exemple de William Blake ou quand tu parles par exemple de cette idéalisation par exemple de l'univers gothique, en même temps, comme dans les utopies finalement, les utopies ont souvent non pas forcément cette idéalisation du passé, mais construisent comme ça des univers qui n'ont pas forcément existé empiriquement ou réellement, mais qui sont constitués comme ça pour pouvoir envisager un avenir autre, un autrement possible, quelque part. Et je trouve que cette idée d'une méthode régressive progressive, lue, à mon avis, chez Henri Lefebvre, effectivement, c'est un peu différent, mais lue comme un détour par le passé pour projeter l'avenir, c'est intéressant.
Chez Lefebvre, c'est un peu ça. Hein,
ça permet.
C'est tout à fait ça. Mm. Ouais.
Ça permet effectivement d'articuler ouais. aussi ouais. le passé, le présent et l'avenir ouais. aussi.
Je pense que effectivement, dans le caractère utopique que tu décris, là, Valentin, il ouais. y a ce côté un peu. Bon, les utopies, on a besoin toujours de références. On essaye de créer comme des constellations, donc parfois complètement anachroniques. Hein. Mmh. Mais on essaye de les faire se rencontrer. Je pense que c'est cette dimension-là qu'on pourrait dire un rapport au passé oui. spécifique. Mais je pense que oui, la question de trahir, c'est exprès un petit peu fort. Le détournement, enfin, j'aime pas trop le terme d'avant-garde, hein, mais effectivement, s'il y a avant-garde, c'est toujours souvent par différenciation. C'est-à-dire quand un mouvement arrive, en général, c'est un peu la théorie négative. D'Adorno, hein. Cette idée que finalement on a toujours besoin de se différencier pour pouvoir, ou parfois on absorbe complètement ce qui a été dit d'avant, de manière parfois complètement inconsciente, on réabsorbe l'héritage, mais on a cette croyance profonde du fait de devoir rompre avec un certain héritage pour pouvoir faire autre chose. Bon, en tous les cas, c'est vrai que donc Michael Lowy nous a écrit effectivement un gros ouvrage sur le romantisme, très très intéressant en tous les cas, chez Payot, hein, c'est ça.
Révolte et mélancolie.
Révolte et mélancolie que tu as écrit avec
Robert Serre.
Voilà, qu'on vous conseille. Effectivement, c'est le caractère le romantisme révolutionnaire. Donc, effectivement, tu décris aussi tout le mouvement aussi réactionnaire du romantisme. Tu montres ça assez bien. Et puis, tu montres quand même l'importance du romantisme révolutionnaire comme vraiment utopique. Que je conseille à tous nos auditeurs. Je fais juste une allusion à ceux qui voudraient, parce que bientôt nous aurons le site de Zone d'attraction en ligne, ça sera un cadeau de la rentrée en janvier, où vous pourrez réécouter les anciennes émissions. On avait invité Yves Citon, qui avait fait justement un ouvrage très intéressant sur la réactualisation des œuvres. Ça peut faire écho à ça. On pourra en reparler à d'autres occasions.
Oui, parce que ta lecture de Kafka, me semble-t-il, c'est une lecture. Finalement, on n'a pas vraiment prononcé le mot pendant l'émission, mais finalement, même si ça peut paraître un peu banal, mais c'est une lecture politique de Kafka, en fait. Et cette lecture politique de Kafka n'a rien d'évident, souvent, une lecture métaphysique, théologique,
Il faut juste ajouter que politique pour lui, c'est quelque chose de complètement différent de ce qu'on entend par politique aujourd'hui, normalement, dans la science politique. C'est-à-dire, c'est, il s'intéresse ni à, aux partis politiques, aux élections, au Parlement, au Sénat, aux institutions, au gouvernement. Tout ça, ça ne l'intéresse pas du tout. Hein. Mmh. C'est une autre façon de voir la politique. Hein. Par en bas. Hein.
Par en bas. Et non pas du point de vue de l'État, finalement.
Voilà, c'est ça.
Pensez le politique.
Et non, oui, un peu qu'au sens de Rancière, finalement, quelque part, peut-être. Je propose qu'on fasse, avant de se quitter, on a encore quand même quelques minutes, je propose qu'on réécoute un autre morceau.
Mit dem Euskum von Bund in Jahr 1897, der Herren sich neue Tenner und neue Lieder, der Arbeiter in Fabrik, die Neiterin in Heus, der Schuster bei seinem Werkstatt und der Schmied mit seinem Hammer. Wir heben und hoffen, als es kann und als es wird das Soft nennen, zu sehr leid.
On a coupé la musique parce que...
Faire partager un peu notre discussion à trois voix, on aimerait l'avoir avec vous, sur justement le statut du romantisme. Hein.
Parce que quand même, oui, c'est ce qu'on disait, cette interprétation du romantisme comme romantisme réactionnaire. Alors, premier écrit de Carl Schmitt, qui est quand même un juriste pro-nazi ultra.
Qui, si vous allez dans les librairies aujourd'hui, vous trouverez de nombreux ouvrages de Carl Schmitt, parce qu'il revient beaucoup à la mode en ce moment.
Voilà, il est réapproprié notamment par les néoconservateurs américains, etc. Le premier écrit de Carl Schmitt est un écrit contre le romantisme politique, qui est défini comme un texte féminin, comme des textes féminins, etc.
Voilà, l'enthousiasme féminin.
Voilà. Pour finalement décrire que c'est justement le romantisme dont je parlais, hein, je vous signale, c'est-à-dire vraiment le romantisme des Schlegel, des Novalis, c'est un romantisme de femmelette finalement. Et ça suffit comme argument pour dégommer le romantisme en somme, non? Oui, vraiment, on se demande qui est réactionnaire, non?
Parce que tu disais, en fait, le premier romantisme, c'est Rousseau, alors, oui. Antenne.
Non, j'ai dit, s'il faut trouver un nom pour dire, voilà, les fondateurs du romantisme, évidemment, c'est un mouvement qui est apparu, mais Jean-Jacques Rousseau, dans les discours sur l'origine de l'inégalité, c'est ça le romantisme, c'est-à-dire c'est une critique de la civilisation moderne qui a introduit l'inégalité à partir d'un passé imaginaire, évidemment, qui n'a jamais existé, où les êtres humains étaient égaux, où il y avait quelque chose, bon, il n'y avait pas d'État, il y avait une espèce de démocratie naturelle. Bon, mais justement, Rousseau dit pas il faut revenir en arrière.
Non.
C'est ça que Voltaire n'a pas compris. Il a dit, ah, vous voulez qu'on marche sur quatre pieds, qu'on mange de l'herbe, hein? Bon, non. Justement, Rousseau propose pas de revenir en arrière. Il dit, il faut fonder une nouvelle république à l'avenir où on va retrouver cette liberté qu'on a perdue, hein? Voilà. Donc, il projette la nostalgie de ce passé imaginaire dans l'avenir démocratique, républicain, etc. Donc, voilà le père du romantisme et du romantisme révolutionnaire, c'est Jean-Jacques Rousseau.
On est vraiment ravis de t'avoir reçu, Michael.
Merci de m'avoir invité.
On va rappeler un peu les. Alors aujourd'hui on a beaucoup évoqué Franz Kafka. Donc Franz Kafka, Rêveur insoumis, d'ailleurs, est très très beau titre, je trouve. Donc il a été publié donc chez Stock en 2004. On a aussi d'autres ouvrages, Révolte et Mélancolie, le romantisme, alors je prends le titre exact, Révolte et Mélancolie, le romantisme à contre-courant de la modernité, écrit avec Robert Serre, publié chez Payot en 1995. Un livre que moi j'ai trouvé aussi très intéressant, Rédemption et Utopie, le judaïsme libertaire en Europe centrale, publié au PUF en 1988. Et puis un texte très beau aussi, Walter Benjamin, Avertissement d'incendie, une lecture des thèses sur le concept d'histoire, publié au PUF en 2001. Et puis beaucoup de tes textes sont disponibles en ligne, on s'en félicite. Beaucoup de tes articles ont été mis sur le site de La Brèche, auquel on peut renvoyer.
Je pense qu'il faudrait donner l'adresse. C'est vrai qu'il y a de nombreux articles, et donc pour les gens qui ne vont pas acheter les livres ou qui ne vont pas lire en librairie, vous pouvez effectivement consulter de nombreux articles de Michael Lewy sur un site internet. Est-ce qu'on a l'adresse?
C'est La Brèche. Si vous tapez Michael Lewy, Kafka et le socialisme libertaire sur Google, comme je l'ai fait, j'avoue être aliéné au capital de Google, eh bien vous trouverez très rapidement ces textes vous trouverez très, très rapidement ces textes.
On a justement quelques textes, on a le texte de Kafka, on a un texte sur justement Guy Debord.
Justement le romantisme de Guy Debord. Voilà. Alors on aurait pu évoquer ça. Donc poursuivons, j'espère qu'on poursuivra.
C'est mille et une directions, comment c'était la phrase que tu as citée de Kafka au début de l'émission?
J'ai besoin de liberté.
Soif de liberté infinie dans toutes les directions.
On peut se quitter là-dessus, je pense.
Alors, donc c'était une émission sur... alors, c'était Zone d'attraction sur Radio Libertaire. On se retrouve dans un petit moment. On se retrouve le 9 janvier avec, si tout va bien, Jacques Rancière, qui viendra parler de son dernier livre, Le spectateur émancipé, et de bien d'autres choses. On remercie Guy à la technique, et puis Eric Tessier aussi, qui était dans les parages.
Formidable à la technique.